France Inter.
L'exil, la guerre, tout ça, si vous voulez, deviennent un peu comme ce que la vie vous a mis entre les mains. Et c'est avec ça que vous allez écrire. C'est un peu comme si c'était vos instruments de cuisine, quoi. Mais la recette, elle, ça, c'est quelque chose de plus mystérieux. Tout ce que vous avez, c'est une fourchette, un couteau et une planche en bois.
Ce qui fait qu'il y a un conflit humain, la plus grande blessure de l'être humain que j'ai vu en médiation et qui existe, c'est le rejet ou l'humiliation. C'est une blessure colossale. Le rejet, c'est pas là, c'est là. Oui. L'humiliation, c'est là. C'est une blessure qui porte atteinte à votre identité, qui vient vous rejoindre dans vos fondements. C'est pour ça qu'elle est la plus difficile. Et c'est celle-là que le médiateur doit reconnaître.
Il a connu la guerre, enfant, au Liban. Il a suivi sa famille en exil à Paris, puis au Québec. Depuis 2000, il vit en France, la France qui accueille ses spectacles, souvent de grandes fresques théâtrales qu'il écrit et met en scène. Littoral, Incendie, Seul, Racines carrées du verbe être sont quelques-uns de ses succès, sans parler des auteurs grecs ou des opéras qu'il met en scène, des spectacles dans lesquels il joue, des romans qu'il écrit. Actuellement, l'auteur, poète, metteur en scène, cinéaste libano-canadien monte une pièce écrite quand il avait 19 ans. Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, sa dernière création, avant de rendre les clés de la direction du Théâtre de la Colline à Paris. Bonjour Wajdi Mouawad.
Bonjour.
Vous êtes venu accompagner, c'est le principe du grand atelier. Je salue Louise Otis.
Bonjour, vous allez bien ?
Madame la juge, oui, et vous-même ?
Merci.
Vous arrivez du Québec, vous présidez le tribunal administratif de l'OCDE et celui de l'OTAN. Vous avez conçu et implanté dans une cour d'appel l'un des premiers systèmes de médiation judiciaire au monde. Félicitations et bienvenue !
Merci.
Dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Wajdi Mouawad, vous voilà donc sur le départ après 10 années à la tête d'un des 5 théâtres nationaux parisiens, le Théâtre de la Colline à Paris. Vous quittez vos fonctions de directeur. Qu'avez-vous l'intention de faire de cette liberté retrouvée ?
Rien.
Dans un premier temps.
Ouais, plus. En fait, j'ai envie de faire confiance à ce que je ne sais pas encore ce qui peut arriver. Je sais que je vais écrire. Mais en tout cas, j'ai envie de me retirer de toute fonction qui puisse d'une manière ou d'une autre être liée à une direction ou à une gestion, que ce soit une compagnie ou un théâtre. Ça fait 35 ans que je fais ça.
Vous l'avez fait au Québec et en France.
Exactement.
Nantes, Paris.
Exactement. Et je me suis dit, il faut que je me dégage de tout rapport de pouvoir, parce que diriger un théâtre, c'est avoir un pouvoir. On dit oui, on dit non, on refuse, on accepte, on dirige des gens. Le mot directeur le dit lui-même. Et j'avais envie de retrouver un rapport au silence et un rapport aussi à la confiance. Confiance, d'une certaine façon, un peu comme si vous vous jetez dans le vide avec la conviction que parce que vous vous jetez dans le vide, une main va vous rattraper. Et que cette main ne vous rattrapera qu'à la condition de vous jeter dans le vide. Ayant refusé à peu près tout ce qu'on a pu me proposer, je me suis dit à chaque fois que je refusais une proposition, j'ai l'impression de laisser de la place à une chose que je ne connais pas, qui aura la possibilité de m'attraper dans cette chute.
On se perd peut-être un peu quand on dirige, parce qu'effectivement, il faut à la fois programmer les autres, faire ses propres créations, ça fait partie du jeu, et puis aussi faire en fonction de l'argent qu'on nous donne ou pas. Les subventions pour la culture baissent en France. Est-ce que ça a été une des raisons de partir, Wajdi Mouawad ?
Non, pas du tout. C'est au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à se battre et trouver des façons de créer et de contourner les obstacles. En plus, je viens du Québec, hein, et même avec la baisse des subventions, si on compare la Colline au théâtre le plus subventionné au Québec, alors là, vraiment, c'est incomparable.
C'est beaucoup plus dur là-bas ?
C'est beaucoup plus dur, il n'y a pas d'intermittence, les artistes ne sont pas reconnus en tant que tels. Mm-hmm. Je veux dire, un artiste qui ne travaille pas, il va travailler dans un restaurant. C'est vraiment, la France a un système très important qu'il faut défendre, pas seulement pour les artistes français, mais pour les artistes étrangers qui prennent ce modèle comme espace de combat aussi, pour essayer de... voyez.
Je me tourne vers votre amie, parce que vous êtes amie, madame la juge, Louise Otis, vous qui vivez à Montréal. Comment vous nous regardez, nous, par rapport à la culture, les Français? Est-ce qu'on est un peu des enfants gâtés par rapport à votre système?
Bah, c'est évident que nous partageons le même amour, la même langue, et elle nous vient de vous. Alors, tout ce qui se fait au niveau culturel en France nous intéresse. Et on le voit, vous allez, si vous venez chez nous, vous allez voir, vous allez entendre sur nos ondes un peu l'espace culturel français. On le garde très près de nous. Et je crois que nos artistes sont en communication. Par exemple, Wajdi, dans tes pièces, tu fais intervenir régulièrement des acteurs québécois, Emmanuel Schwartz,
Violette Chauveau.
Violette Chauveau, qui est extraordinaire. Alors, je trouve que ça crée une mixité qui est extrêmement intéressante et salvatrice pour la survie de notre culture française.
Oui, c'est vrai que Wajdi Mouawad, que ce soit à La Colline ou ailleurs, aime bien avoir une mixité de comédiens et de présence sur un plateau.
Oui, c'est parce que je suis moi-même le fruit de cette mixité, c'est-à-dire entre l'arabe, le français, le québécois. Même, on peut déplier chacune de ces cultures. Si je regarde le Liban est une mosaïque de 19 confessions différentes qui se sont détestées, qui se sont haïes, qui se sont séparées, qui se sont fait une guerre civile vraiment meurtrière, qui ont essayé de trouver à l'intérieur de ça, à l'intérieur de chacune de ces communautés, il y a eu des intellectuels extraordinaires qui ont essayé de trouver comment garder quand même un lien de réconciliation qui, à chaque fois, a été détruit pour être rebâti et reconstruit. Cette idée de mixité, cette idée de métissage, surtout avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est surtout ça pour moi qui m'importe.
Et ça, m'importe. C'est vraiment le théâtre de Wajdi Mouawad. Comment vivre ensemble?
Oui, puis comment raconter les blessures de l'ennemi?
Oui.
C'est-à-dire comment sortir de la victimisation.
C'est parce ça, pas que... seulement sa propre blessure, ses propres blessures.
Oui, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours... Mon devoir est de raconter les blessures de l'ennemi, à l'ennemi, de voir s'il a envie de raconter les miennes. Mais c'est sa responsabilité. Parce que si je commence à parler des miennes, je tombe, malgré tout, et malgré moi, dans la plainte. Or, l'art, surtout au théâtre, ne peut pas supporter la plainte. Le théâtre, dans son immédiateté, dans sa parole immédiate qui fait que des gens sont rassemblés autour d'une prise de parole, eh bien cette parole, elle ne peut être que un miroir des obscurités de cette communauté qui est assemblée là. Si je fais une pièce de théâtre pour dire combien ceux qui ne sont pas là sont méchants, ça sert à rien. Lorsqu'on a vécu en France, en tant qu'exilé enfant, on a appris la langue française, qu'on est arrivé au Québec, qui est le seul endroit au monde où le français n'est pas la langue des maîtres, mais la langue des prolétaires. C'est le seul endroit au monde, partout dans le monde, le français est parlé par les classes dirigeantes, soit en Russie, en Afrique, au Moyen-Orient. Quand vous êtes chic, vous voulez faire chic, vous parlez français.
Lingua
partout.
Franca.
Comment?
La lingua franca, qui était parlée à la cour d'Élisabeth en Russie.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et bien, le seul endroit où parler français était une honte, c'était au Québec. Eh bien... Là encore, vous arrivez, vous trouvez au Québec un théâtre qui a fait de cette langue de la honte un espace dramaturgique et poétique exceptionnel. Eh bien là, oui, c'est là où je me suis dit, je ne peux pas exclure le métissage des langues, le métissage des cultures du théâtre que je fais.
On va écouter Arthur Ashe. Pourquoi Arthur Ashe? D'abord parce qu'on l'aime bien, on aime bien entre autres sa chanson « La boxeuse amoureuse » qui est magnifique, qui est un hommage à sa mère qu'on salue parce qu'elle écoute France Inter, elle me l'a dit une fois quand je l'ai interviewé. Vous l'avez dirigé Arthur Ashe en tant que comédien et chanteur dans « Mort prématurée » d'un chanteur populaire dans « La force de l'âge ». Parfois Wajdi Mouawad aime les titres longs. Qui était l'histoire d'un musicien mais qui se demande un peu, un petit peu comme vous peut-être aujourd'hui, il a une cinquantaine, il se demande un peu où il va, ce qu'il doit faire. Ce qu'il va écrire, il y a une sorte d'inconnu et un manager un peu loser lui dit « Mais tu devrais faire croire que t'es mort, comme ça les ventes de tes disques vont monter » et c'est ce qu'il fait. Je me souviens d'ailleurs que j'avais annoncé, vous aviez pris ma voix, j'étais très fier pour annoncer la mort d'Arthur Ashe. Et c'était tous les soirs la mort d'Arthur Ashe, ça fait un drôle d'effet. Je crois que c'est un joyeux souvenir pour vous deux, lui est très heureux d'être monté sur scène comme acteur.
Vraiment, ça a été formidable.
Et vous avez testé quelque chose finalement, hein, ça vous arrive. La boxeuse amoureuse, Arthur Ashe, dans le grand atelier de Wajdi Mouawad.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse. Jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
Wajdi Mouawad, homme de théâtre, est dans le grand atelier avec une juge canadienne, Louise Otis. Louise Otis, vous avez créé la fameuse médiation judiciaire au Québec. Elle a été adoptée en France et pas seulement. Elle a fait des petits. On vous l'a demandé 1 milliard de fois, mais est-ce que vous sauriez dire aux auditeurs ce que c'est précisément la médiation judiciaire que vous avez voulu, peut-être pour désengorger un peu les tribunaux ?
En fait, non pas pour désengorger les tribunaux, je dirais pour donner plus d'âme aux tribunaux.
Apporter un peu d'humanité.
Apporter de l'humanité. Et j'étais à cette époque-là juge de première instance à la Cour supérieure. Et donc, je dirigeais des procès. Et à chaque fois, à chaque soir, je me retirais en me disant « Mais cette affaire aurait pu se régler d'une manière qui était beaucoup plus civilisée, qui était beaucoup plus douce, qui aurait amené une guérison. » Mais on était dans le procès. Alors, quand je suis devenue juge à la Cour d'appel, j'ai demandé au premier juge du Québec, notre premier magistrat, nous on dit juge en chef, vous vous dites premier président, laisse-moi tenter une expérience pilote de 18 mois. Je vais siéger comme tout le monde, mais la fin de semaine et les soirs, je vais présider les médiations pour les gens qui en veulent. Il faut que ce soit consensuel. On ne vient pas là de force.
Donc, on met deux personnes face à face qui ne s'entendent pas.
Deux qui sont dans un litige, qui est inscrit à la Cour, et que ce litige va procéder devant les tribunaux à moins que ça se règle. Et là, c'est non pas un médiateur privé, mais c'est la juge qui retire sa toge, qui s'assoit avec eux et qui tente de régler le problème. Et s'il y a un règlement, il y a une transaction qui est entérinée par la Cour, ça devient un jugement. Alors, on a fait ça pendant 18 mois, et 80% 100% de tout ce qui est venu devant moi a été réglé par entente. Et donc, en 98, ce système devient permanent. Et dans les années 2000, vous savez qui on accueille? Le Conseil d'Europe, qui n'avait jamais fait ça, tenir ses assises à l'extérieur de l'Europe, qui nous amène une vingtaine de magistrats de différents pays. Et je fais une première formation en médiation. Mais en France, mon bonheur est que par le décret qui est adopté en 2023, je dis toujours, c'est mon enfant, hein? Ma fille ou mon fils de 20 ans est devenu maintenant intégré dans tous vos tribunaux en France. Alors, quel bonheur!
Oui.
Je vous le dis.
Ouais, je dis, moi, ouais, vous regardez avec amitié et aussi avec admiration Louise Otis, parce que je veux pas en rajouter, mais c'est quelqu'un à la fois au Québec et maintenant dans le monde, grâce à l'entrée de cette humanité, j'employais ce mot peut-être à tort, je ne sais pas, mais dans les tribunaux en tout cas.
C'est vraiment une chance de pouvoir côtoyer quelqu'un comme Louise, parce que il y a son savoir-faire, comme chacun d'entre nous peut avoir un savoir-faire professionnel. Mais je pense que la chose la plus fondamentale, peut-être dans le lien à Louise, c'est que je me suis rendu compte que quand Louise m'a raconté ce qu'était la médiation, ce qu'était ce chemin par le langage, parce que la médiation passe par le langage, pour entrer dans le labyrinthe au cœur duquel il y a une blessure qu'on appelle l'humiliation, et que c'est par le langage qu'on rentre dans ce labyrinthe pour essayer de défaire cette humiliation qu'il y a entre les deux belligérants. Tout ce que ça demande pour le médiateur de respect, d'absence de jugement, d'attention permanente pour que ni l'un ni l'autre ne se sentent écartés ou blessés. Quand Louise m'a raconté ça, je me suis rendu compte que si, à 20 ans, j'avais su que ce métier existait, c'est ça que j'aurais fait.
Juge.
Médiateur.
Ah oui, médiateur. Juge qui tombe la robe.
Médiateur. J'aurais vraiment fait médiateur en zone de combat. Je pense vraiment, souvent je pense à ça et je me dis, c'est le métier que j'aurais voulu faire.
Et ça ferait un bon titre de pièce de théâtre, médiateur en zone de combat. Je me tourne vers votre invitée, Madame la juge, Louise Otis.
Oui.
Le langage est très important pour Louise, dit Wajdi Mouawad. Le langage, quand vous interviewez des parties qui ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'il vient faire là, à quoi il sert, comment vous l'utilisez?
Revenons à nos sources. Est-ce que vous savez que l'homme et le chimpanzé sont des cousins évolutifs? La différence. Nous, voici 6 millions d'années, notre larynx s'est abaissé à cause de la bipédie. Nous nous sommes mis à marcher.
Ah oui, on s'est redressé.
C'est ça la différence. Hey. Le larynx s'étant abaissé, on a pu maintenant commencer à émettre des sons. Et évidemment, au fil de l'évolution, ces sons sont devenus d'un langage, un langage qui est devenu de plus en plus abstrait. Et voilà, c'est ça la différence. Mais à l'origine, nous sommes des cousins évolutifs. Et je dis toujours aux gens, c'est parce qu'on a le langage maintenant que nous, on est capable de dominer la guerre. On peut régler des conflits. C'est certainement à cause du langage que n'ont pas les autres mammifères, qui pourtant, à certains égards, je dois vous dire, se comportent mieux que nous. Mais c'est évidemment par cette voie exceptionnelle que nous devrions être capables de régler les problèmes. Regardez, par exemple, votre Europe, hein? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quand on pense, ramenons-nous vers 1600, je crois que c'est 1643, où vous avez eu les traités de Westphalie. Qu'est-ce qui fait que l'Europe est devenue ce qu'elle est, que la Suisse a été créée, que le droit international a été créé, que les mercenaires ont cessé d'être désarmés? Ce sont deux moines qui sont venus de Venise pendant 5 ans comme médiateurs, sont allés en Westphalie, un avec les protestants, l'autre avec les catholiques, et ils ont négocié la nouvelle Europe, les traités de Westphalie, par le langage. C'est par ça qu'on a des traités, c'est par ça qu'on arrive à vivre ensemble. Et je dis, si on enseignait à tous les enfants, dès le primaire, le plus grand poème jamais écrit dans l'histoire de l'humanité sur la guerre, je pense qu'on préviendrait des guerres, l'expiation de Victor Hugo. Hein, l'expiation de Victor Hugo, le retour de Russie.
Vous l'avez sous les yeux?
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul, et chacun se sentant mourir, on était seul. C'est le plus grand poème écrit qui décrit ce qu'est la guerre, les affres de la guerre. Alors oui, Wajdi, le langage, oui, le langage premier, oui, être médiateur dans les conflits de guerre, oui, on est là.
Vous voulez commenter, Wajdi Mouawad? Ou vous préférez
qu'elle continue à parler
le silence.
Que dire Une Parce fois, que... Louise m'a dit, tu sais, le mot humiliation et le mot humilité ont la même racine.
Et je vous coupe parce qu'on a cet extrait-là, vous en avez fait du théâtre,
oui,
de ça.
Oui, exactement.
Dans une des pièces de Sophocle que vous avez
oui,
mises en scène,
Ajax,
Ajax, il y a
oui.
quelques années, oui. on entend un coup de fil que vous passez à Louise Otis.
Tout à fait.
Bonsoir Louise, c'est Wajdi. Je t'appelle pour te demander un petit service. Je voulais savoir si tu acceptais de me rappeler. Je te demanderais si tu veux bien me laisser sur mon répondeur ce que le mot humiliation représente dans ton travail, dans les conflits que tu as à traiter. Au revoir, Louise.
Allô, HD, c'est Louise qui t'appelle de Montréal. Moi, je crois que l'humilité est un choix. Dans sa forme ultime, l'humiliation est plutôt une blessure profonde que l'on porte en soi. L'humiliation subie dans l'enfance est protéiforme. Tu sais, les médiateurs qui doivent faciliter la résolution des grands conflits, publics ou même privés, savent que derrière le conflit apparent se cache un conflit innommé et innommable, enfoui dans les méandres du monde intérieur des belligérants. L'humiliation.
C'est bien d'avoir amené la parole de Louise Otis sur scène. Vous aviez envie que tout le monde, enfin, en tout cas que tous les spectateurs de Wajdi Mouawad la connaissent, la découvrent, la rencontrent.
Oui, parce que ça éclaire. Ça éclaire des ondes d'ombre qu'on porte en soi et qu'on n'arrive pas à nommer. Les spectateurs, les gens, les amis avec qui je discute, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire devant le monde, le fracas du monde dans lequel nous vivons en ce moment, et on manque de mots. Mais il y a une extrapolation, une vulgarisation dans le très grand, noble sens du terme, qui fait en sorte que quand elle prend la parole et qu'elle parle, elle nous donne des mots, elle nous éclaire, et du coup, on a un sentiment intérieur que l'horizon s'élargit. Donc oui, j'avais vraiment envie.
Oui.
J'ai toujours envie de faire en sorte que les gens rencontrent Louise.
Vous êtes un peu une sage aujourd'hui. Vous trouvez les mots que nous ne trouvons pas, vous faites appel à votre métier, à votre expérience, à votre relation avec toutes les personnes qui sont venues et qui souffraient. Et vous faites aussi appel à la littérature, à la poésie. Vous êtes riche de plein d'expériences, peut-être même aussi de la psychanalyse ou de la psychiatrie, puisque les psys disent aussi « il faut parler, ça dénoue le conflit ». Intérieur.
Oui, absolument. D'ailleurs,
il y a toutes ces richesses en
j'y
vous.
J'y ai eu recours. J'ai essayé la psychanalyse et c'était un bijou dans ma vie.
Combien d'années ?
Deux ans. Mais moi, je reviens à Wajdi parce que lui, il m'a permis de. Moi, je m'intéressais à la bipédie, à l'origine de l'homme, et je disais à l'origine, nous descendons du maître, mais on m'a bien inscrit. Non, 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 nous avons un ancêtre évolutif, mais on n'est pas, nous ne sommes pas des singes ou des chimpanzés. Et j'ai tout étudié l'évolution du langage, mais Wajdi, lui, il m'a amené quelque part de remarquable. Il m'a amené en mythologie grecque.
Oui.
Et parce que c'est vraiment la base. Et tu te rappelles, Wajdi, qu'est-ce que c'est qu'on fait lorsqu'on a fait de la médiation ou lorsqu'on est juge? On détermine le conflit et on détermine le responsable du conflit ou on essaie d'assagir le conflit. Et c'est lui qui m'a instruit sur le fait que déjà 1000 ans avant notre ère, avec Hésiode, avec Eschyle, avec Eurépide, les anciens ont retracé l'une des manifestation les plus puissantes de l'expression humaine, qui est la propension innée de l'être humain au conflit. Et là, je vais vous rassurer parce que tout change, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Nous sommes restés encore, après des millénaires, avec une parfaite constance, une créature parfaitement conflictuelle. Alors, vous voyez, le conflit est en nous, et c'est pas mauvais.
Oui.
Le conflit, on pourrait dire que c'est un des signes vitaux de la personne humaine, c'est une manifestation de la vie elle-même. Une fois qu'on sait ça, comment le harnacher?
Alors ça, c'est intéressant parce que on voit bien, en fait, que cette idée de la guerre comme une pulsion, parce que c'est vraiment une question qui a souvent été soulevée, mais pourquoi est-ce que les gens se font la guerre? Et les grands philosophes, que ce soit Hegel, Kant, enfin, c'est bon, et puis à un moment donné, cette idée, en fait, ils en sont venus à une idée que, en fait, pour arriver à contrer ça, il faut une instance au-dessus. une instance judiciaire, au fond, une institution qui va chapeauter les conflits et qui va déterminer, au fond, comment on va régler les conflits avant d'en venir à la guerre. Ça a plus ou moins marché. À un moment donné, au XXe siècle, ils se sont dit non, mais en fait, il faut qu'il y ait des intérêts entre les gens, comme ça, ils vont pas se faire la guerre. Donc, le commerce. Si moi j'ai des choses qui t'intéressent et si toi t'as des choses qui m'intéressent, on va pas se faire la guerre parce qu'on a besoin de faire en sorte que... Donc on s'est dit, bon ben, le commerce va être garant de paix. Mais on voit bien comment à chaque fois il y a quelque chose qui vient dévaster un peu tout ça. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que dans la remise en question des grandes institutions internationales faites par l'Occident lui-même, c'est-à-dire enfin, pour l'administration américaine qui se retire à peu près de toutes les instances institutionnelles, il y a quelque chose qui devient vraiment formidable et étrange, c'est que tout à coup, ce mouvement-là, qui veut remettre en question les institutions, est un mouvement conservateur. Hein, Trump, c'est quelqu'un de droite et d'extrême droite. Fait en sorte que tout à coup, nous qui sommes des progressistes, on devient les conservateurs, puisqu'on essaye de dire « mais non, il ne faut pas que ces choses-là disparaissent ». Donc on se retrouve à vouloir conserver le monde d'avant, mais en même temps c'est complètement paradoxal parce que c'est ce monde d'avant qui a permis l'émergence de quelqu'un, qui a permis l'émergence de Trump, ou de, en tout cas de cette pensée-là. Et donc la question qui est comment on se sort de ce piège. Donc,
Gardez votre réponse pour l'instant qui suivra la chanson de James Blake, si vous le voulez bien, Louise Otis.
Merci.
Dans le grand atelier de Waldy Mouawad sur France Inter.
Personne ne savait que le Canada imposait des droits de douane à nos exploitants laitiers. 200%, personne ne savait qu'ils payaient des droits de douane de 200%. Nous n'avons besoin de rien. Et pourtant, ça nous coûte chaque année 200 milliards en termes de subventions pour maintenir le Canada à flot. Et quand je dis que ça devrait être en état, eh bien, je suis sérieux. On ne peut pas s'attendre à ce que l'on porte à bout de bras un pays qui est juste à côté de nous, de l'autre côté de la frontière, mais ça serait formidable, ce serait un État que nous aimerions, que nous chéririons.
Voilà, Donald Trump en mars dernier. Louise Otis, ça vous fait sourire, qui rêve de faire de votre pays un 51e État américain. Par ailleurs, la jeunesse qui aimerait bien que le Québec soit indépendant, hein, 30 ans après le fameux référendum. Comment, et c'est la prolongation de la question de Wajdi Mouawad, comment vous voyez ce monde actuel et ce monde à venir, notamment chez vous ?
Je ne pense pas que j'ai fait de grandes annonces en disant que les mouvements politiques sont devenus autoritaires. Alors, j'utilise ce terme. J'entends, quand je lis fascisme néo-économique, j'entends dictature élue, je garde le terme plutôt pour moi, mouvement politique autoritaire dans plusieurs pays du monde. C'est un moment de notre histoire. Mais moi, je reste très optimiste. Le seul endroit où vous me verrez être très inquiète et poser vraiment ma tête sur ma main avec une grande inquiétude, c'est véritablement le dossier climatique. Héraclite disait « L'équilibre du monde est par tension opposée, comme pour la lyre et comme pour l'arc. » On a toujours des balancements qui se font, et je crois que nous reviendrons. On ne détruira pas ce qu'on a acquis, qui est notre démocratie. Nous allons revenir à nos essentiels. Je suis très près des travaux du GIEC. J'ai dessiné, j'appelle ça ma dernière croisade, il faut bien que j'arrête à un moment donné, alors qu'il y a la création d'une unité internationale de médiation environnementale. Dans 10 ans, nous aurons l'équivalent environ de 200 millions de réfugiés climatiques. On les met où? On prévoit 1 milliard de déplacements humains. Alors, on va gérer ça comment? Vous nous voyez autant chez nous au Canada que chez vous en France vous plaindre de l'immigration parce qu'elle est devenue, selon nous ou selon vous, incontrôlée et qu'elle doit être régimentée de meilleure manière. Mais moi, je dis, premièrement, que ferons-nous avec ces réfugiés? On ne peut pas les abandonner sur place. Et je dis toujours à Wajdi, nous sommes un à la fin. Nous sommes un seul animal. Nous sommes un seul être. On est tous pareils. Et c'est pour ça que j'aime autant Amin Malouf lorsqu'il nous parle des identités meurtrières, parce qu'à la fin, nous sommes une personne. Donc, cette unité internationale serait composée de ceci. Des médiateurs terrain avec des scientifiques qui se rendent au lieu des catastrophes, mais immédiatement, pas avec leur agenda le mois suivant, immédiatement avec des avions qui sont prêts à les transporter. Ensuite, des médiateurs gouvernance qui vont négocier d'un État à l'autre pour le déplacement des gens. Des médiateurs qui sont fiscaux, qui vont pouvoir négocier avec les grandes fortune du monde pour dépêcher des montants d'argent pour aider nos réfugiés. C'est là que les besoins sont. Est-ce que vous savez que, je m'excuse de prendre, mais je dois le dire, qu'il y a 3 000 milliardaires aujourd'hui, que ça a augmenté de 81 % depuis 2020, alors que près de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté. Et l'ultra-richesse est ce qui érode la démocratie. Alors, c'est ce qui me touche profondément. Donc, je pense qu'il faut nous ramener ensemble et nous relier, parce que de tout temps, l'histoire montre que nos peuples tendent vers des sociétés égalitaires, même dans notre mythologie, où je dis. Tout le temps. Moi, je dis toujours, de par quelle éviction morale ceux qui en ont trop estiment qu'ils n'en ont jamais assez.
Est-ce que vous êtes entendu?
Par certains, j'imagine, je l'espère. Et mon appel se fait, je vous le dis tout de suite ici, à la jeunesse.
Alors là, vous vous entendez avec Wajdi Mouawad aussi sur ce terrain-là, parce que quand Wajdi Mouawad arrive à la colline, il dit j'ai parmi mes nombreux dossiers sur mon bureau, le dossier de la jeunesse. J'ai envie de faire venir des jeunes au théâtre, j'ai envie qu'ils soient concernés par ce qu'on leur propose. Vous avez aussi écrit des pièces pour les jeunes et des récits. Pacamambo, Un obus dans le cœur, très belle pièce. La petite pieuvre qui voulait jouer du piano, Assoiffée. Et je me souviens qu'en 2015, vous aviez lancé quelque chose de complètement utopique, mais qui a eu lieu. Vous aviez proposé à des jeunes de participer à une aventure qui passait autant par le texte que par le voyage. Ça s'intitulait « Avoir 20 ans en 2015 ». Pourquoi êtes-vous aussi soucieux de la jeunesse ?
J'ai été sauvé par des gens plus âgés que moi, du mépris de moi-même. Je me trouvais totalement nul. J'avais pas mon bac, j'étais nul.
Et puis profs vous ont dit que vous étiez nul. Hein.
Ouais. J'étais nul, j'étais vraiment... Mais
on vous a asséné cette idée de la nullité.
on m'a pas seulement asséné, je me suis mis aussi dans des situations où je me suis...
Et est-ce que vous savez ce qui vous a sorti de ça et de ce cercle infernal de la nullité ?
On va dire, il y a peut-être deux éléments. Un élément intérieur, une sorte d'entêtement chez moi, tout petit, mais à suivre quand même l'instinct qui était le mien, qui était au fond l'envie d'écrire. Tout le reste m'ennuyait, tout le reste me désespérait, tout le reste était un poids trop lourd, sauf écrire. Je pouvais écrire des heures et des heures et des heures et des heures.
Est-ce que vous écriviez tôt du théâtre ?
J'écrivais des mots. La forme n'avait pas trop d'importance.
C'était une libération ?
Ouais. Et dès lors qu'on me disait « Arthur a acheté 7 tartes dont le 2 tiers est à la noisette et l'autre 7 huitièmes était aux noix, combien y a-t-il de pointes ?» Dès qu'on me disait ça, j'étais pris d'une envie de suicide immédiat. Mmh. Je voulais me pendre, je ne pouvais pas supporter ces trucs-là. J'avais l'impression que l'école était un magasin de chaussures où on ne vend que du 42 et que je chaussais du 54. Ça me faisait trop mal aux pieds, mais j'étais obligé de mettre des 42. Quoi.
Mais vous avez dépassé ce traumatisme, c'est formidable.
Après, ce qui m'a aidé, c'est des gens, ce sont des profs, c'est des rencontres que j'ai faites avec des gens beaucoup plus âgés que moi.
Et qui vous disaient, tu as raison d'écrire.
Avant même, ils ne savaient même pas que j'écrivais, mais ils m'ont regardé, ils ont senti peut-être chez moi quelque chose que je ne savais pas de moi, qui était, on pourrait appeler une forme de sensibilité, une manière de regarder le monde qui n'appartenait qu'à moi, mais que je ne savais pas, et j'étais totalement ignorant. C'est eux qui me l'ont dit, qu'ils ont pris le temps de me témoigner de l'amitié, de la confiance, de l'attention, de l'écoute, qui m'ont permis de me sortir de la conviction de ma propre banalité et que peut-être, avec cette banalité qui était la mienne, je pouvais créer des petites choses qui pouvaient me donner, qui créaient du sens, enfin, sortir, échapper à la chape de plomb qui était écrasante. Ben, des années plus tard, j'ai jamais oublié ça. Je veux leur offrir ce que j'aurais voulu qu'on m'offre. Peut-être plus rapidement, au lieu d'attendre à 25 ans et à 15 ans, je veux tout de suite leur dire, vous savez, vous êtes dans un brouillard, vous n'êtes pas seul, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et j'ai surtout besoin d'entendre ce que vous pensez. Apprenez-moi ce que je ne comprends pas de vous. Moi, c'est ça que j'aurais voulu qu'on me demande quand j'avais 15 ans. Mais on ne s'intéressait jamais à ce que je pensais à 15 ans.
Il n'y avait pas de médiation entre les adultes et le petit Wajdi.
Non, on avait surtout le désir de me dire ce que je devais penser. On avait surtout les parents, les profs, l'école, s'étaient mis en tête que leur rôle, c'est de me dire ce que moi je dois penser. Que transmettre, c'est écraser par la pensée. Or, transmettre, c'est donner la parole. Et quand je suis arrivé à la colline, c'était ça le but. Donner la parole, c'est ça, transmettre.
Oui, et puis écrire du théâtre, c'est aussi donner la parole à différentes parties.
Tout à fait.
Voir un spectacle de Mouawad, on voit des spectacles où l'exil est très présent, où des personnes sont fracassées par la guerre civile, où l'héritage est au centre, où les violences familiales sont présentes sur le plateau, où parfois le manque de discussion, de dialogue entre les uns et les autres est saillant. Tout ce que vous venez de dire là, je le vois moi dans vos théâtres, et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que d'une part, l'an dernier, Wajdi Mouawad donnait des cours au Collège de France, mesdames, messieurs, des leçons, il y a d'ailleurs des bouquins qui en témoignent, il y a l'ombre en soi qui écrit, qui est votre leçon inaugurale, qui est publiée, et puis jusqu'au bord de son rabbin, les verbes de l'écriture, c'est passionnant, parce que les questions aussi de ce petit Wajdi qui n'était pas très heureux, et à qui on ne disait pas ce qu'il fallait avant un certain temps. Et puis, vous êtes autorisé au théâtre les fresques, l'épopée et votre connaissance de la mythologie grecque vous autorise, Wajdi Mouawad, à proposer des spectacles longs, parfois des marathons. Je me souviens d'une nuit à Avignon dans les années 2000.
À la fin d'un spectacle, c'est normal, le public applaudit les artistes. C'est beaucoup plus curieux quand les rôles s'inversent, mais tôt ce matin à Avignon, on ne savait plus très bien de quel côté était l'exploit. Reprenons. Il est 20h hier soir, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, 2000 courageux spectateurs. Partis pour un marathon théâtral, 11 heures de représentation. Le spectacle, trois pièces enchaînées de Wajdi Mouawad, artiste libano-québécois et attraction du festival. 5h du matin, le jour se lève sur des spectateurs transformés en forêt de couverture.
Je vais acquérir une terre.
Ici se joue l'exode, l'exil, la mort ou les non-dits familiaux. Toute la nuit, une performance scénique incroyable et une expérience inoubliable.
intéressant ce reportage parce qu'il parle moins de ce que vous vouliez dire avec votre théâtre que de l'expérience physique du spectateur. Et c'est vrai qu'elle entre en ligne de compte, l'expérience physique du spectateur.
Ils étaient dehors, il faisait froid, il y avait le Mistral qui soufflait. Et puis il y avait cette situation de passer à travers trois fresques qui se suivaient, qui traversaient la nuit et faisaient en sorte que les spectateurs eux-mêmes traversaient leur propre existence, celle de leurs parents, celle de leurs enfants, le théâtre. Ils s'endormaient, ils se réveillaient.
C'était une expérience.
Vraiment.
Et ça doit être un bonheur suprême pour un auteur d'être joué toute une nuit.
Ça a été un bonheur pour tous les acteurs. Ça a été un bonheur vraiment immense pour tous les acteurs, pour beaucoup de spectateurs. Pour moi, ça a été un cauchemar. J'aime beaucoup répéter les spectacles, j'ai beaucoup de difficultés avec les représentations. C'est-à-dire, à partir du moment où le public arrive, je suis terrorisé.
Vous avez envie qu'on parte ?
Non, j'ai pas envie qu'il parte. Non, je m'en vais. En général, je pars, je fuis.
Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Je me souviens de Nathalie Dessay, à l'époque où elle était une grande soprano à l'opéra. Elle a cessé sa carrière à l'opéra. Elle disait « Je n'aime que les répétitions et je déteste le moment où il faut vraiment, justement, accéder à la représentation. »
Par exemple, très concrètement, je n'ai jamais vu aucun des spectacles que j'ai fait avec des gens dans la salle. Jamais. Je suis incapable d'être assis dans la salle avec des spectateurs.
Vous êtes bloqué.
Je ne suis pas bloqué, je suis terrorisé. La représentation de l'enfer, pour moi, ce serait d'être assis dans une pièce fermée et pour l'éternité, avoir des spectateurs qui viennent s'asseoir en face de moi les uns après les autres pour me dire ce qu'ils ont pensé du spectacle qu'ils ont vu. Je me sens interdit de bonheur pour ces moments-là qui sont tellement extraordinaires.
Oui, vous vous privez de quelque chose.
Mais c'est comme ça.
En ce moment, à la Colline, il y a encore non pas le petit Wajdi, mais le jeune Wajdi. Vous avez écrit « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes à 19 ans » et pour votre départ, à l'occasion de votre départ de la Colline en mars prochain, c'est ça, c'est cette pièce-là qui est jouée en ce moment. C'est un jeune homme qui s'enferme en effet dans les toilettes de l'appartement familial. Il est incarné par Michel Escaut. C'est un jeune peintre qui est assez paumé et qui a bien l'intention par son geste d'emmerder le monde, à commencer par sa famille. Il aimerait particulièrement que ses parents se débarrassent des voisins qui ont envahi leur appartement. On écoute un extrait.
N'y allez pas, vous ? J'aime pas le sang.
Je vois.
Et vous ?
Non. Ça m'ennuie, moi, ces histoires. Ça n'en finit plus, on dirait.
C'est vrai que cela fait longtemps que ça dure, les choses seraient plus simples si les Protagoras acceptaient de partager leur appartement avec les Philistires à l'estime.
Vous ? Partageriez-vous votre appartement avec une autre famille ?
Mais moi, c'est pas pareil. J'ai pas de place, tandis que les Protagoras...
Les Protagoras sont en effet le plus bel appartement de l'immeuble.
Ils ne veulent pas le partager, leur bel appartement. Pourtant, c'est bien eux qui ont invité les Philistires à l'estime.
Oui. Mais maintenant, comme on demande à un invité qui ne s'en va pas de lui-même de partir, les Protagoras demandent aux Philistires à l'estime de s'en aller.
Alors, la pièce dure 2h35, si je ne m'abuse. Oui, dit-il, c'est une tragédie, en tout cas je l'ai vu comme ça, une tragicomédie bouffonne, loufoque, avec de la provocation, avec des moments scatologiques. Il recouvre les murs de ses propres excréments. Je trouvais ça d'ailleurs intéressant parce que vous recouvrez les murs de la Colline au moment de partir. Est-ce qu'en psychanalyse, ça veut dire quelque chose ? Est-ce que vous partez en disant « Eh merde !»
J'avais pas envie de faire un spectacle qui soit un mausolée. Parce que souvent, le directeur qui part après 10 ans, il dit « je vais faire un super beau spectacle, super sage, profond pour montrer qu'on m'aime ».
Qui résume mes 10 ans à la Colline.
Ouais, et puis combien j'ai grandi, etc. Et puis en fait, ça devient vite nécrologique, quoi. Il est mort. Je me suis dit « il ne faut surtout pas que ça ait l'air d'un mausolée ».
Alors donc, vous êtes allé rechercher l'adolescent en colère.
Ah ouais. Et puis surtout, en fait, je me suis dit « j'aimerais bien faire un spectacle ». En fait, ce qui m'intéresse dans Willy... C'est la première pièce, donc il y a à la fois quelque chose qui ouvre, mais qui est complètement brinque-ballant. Dans ce côté brinque-ballant, si aujourd'hui on me disait « écris une pièce qui a ses qualités de chaotique », je ne saurais pas faire, je sais trop faire maintenant. Il y a un tel, entre guillemets, un tel savoir-faire narratif qui s'est déployé, que revenir à Willy Protagoras, c'était revenir aussi au moment de l'aveuglement. Partir avec ce moment-là, pour moi, c'était une façon de rester vraiment vivant.
Oui, et puis c'est aussi une pièce qui rappelle votre traumatisme. Il y a quand même l'idée d'une guerre civile dans cette famille.
Oui. Et puis aussi, le moment du territoire, c'est la question du territoire. Qu'est-ce que c'est un territoire ?
Qu'est-ce qui m'appartient ?
Et qu'est-ce que c'est, au fond la désobéissance, qu'est-ce que c'est désobéir quand on a l'intuition de la désobéissance, mais on n'en parle encore exactement pourquoi. Il y a une phrase, pour moi la phrase la plus importante dans Willy, c'est quand Willy dans l'acte 4 dit « je ne suis pas d'accord », il fait un temps, ensuite il dit bon, je ne sais pas avec quoi, mais je ne suis pas d'accord. Et je crois que ce je ne suis pas d'accord, il est la source de l'écriture. On écrit parce qu'on n'est pas d'accord. On ne sait pas avec quoi, mais ça n'a pas d'importance.
L'écriture naît d'une colère.
Oui.
En fait, à Wajdi, tu es l'incarnation de ce qu'Amin Maalouf a écrit.
Ah, mais on va parler des livres que vous nous conseillez d'Amin Maalouf dans un instant, ouais, Louise Otis, juste
il
après.
Il en est l'incarnation.
Juste après avoir écouté, si vous le voulez bien, Marguerite, une jeune chanteuse qu'on aime bien, notamment sur Inter, elle chante « Snipeuse ».
Il y a des gens partout, j'ai le cœur qui devient fou, ça me fait tourner la tête. J'ai pas les applis, j'ai des petits papiers, mon numéro dessus. Tu t'appelles comment? Ils font quoi tes parents? Tu fais quoi ce soir? Viens, on fait pas semblant, perds pas notre temps, il va fermer le bar. Scan, check, inspecte, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspecte, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspecte, flamme, reste, flag, red. Scan, check, match, yes. Je crois qu'on est plus beau au tout début. Quand on s'est pas encore embrassé, quand on s'est pas encore déçu. J'ai plus ce qui me plaît, mais je supporte pas de danser solo. J'ai des coups de cœur à tous les coins de rue, sur les trottoirs, les gens sont trop beaux. Trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles. Snipeuse, je tombe amoureuse à chaque jolie gueule. Mon corps s'emballe.
Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Louise Otis, dites-nous pourquoi il faut lire d'Amin Maalouf les identités meurtrières et les désorientés.
C'est Wajdi, lorsqu'il parlait, voici quelques minutes, qui m'a ramené à cette phrase excellente de Amin Maalouf, et c'est toi ça, Wajdi. Il dit « L'exil n'est pas seulement un arrachement, l'exil c'est aussi une ouverture ». Et c'est vrai, c'est toi ça, c'est ce que tu nous racontes. La blessure reste encore là, elle est à l'intérieur. Et quand je fais de la médiation et que je quitte les gens, je veux dire, on a réussi d'une certaine manière à recréer un état d'harmonie, à trouver un point d'équilibre. Mais la blessure qui était là va vivre, mais c'est juste qu'on la contrôle bien. Et pour toi, c'est ça aussi. Alors, le passé n'est pas un fardeau, mais... Pour toi, c'est peut-être un fardeau, mais c'est une source de sens. Et tu en as fait ce sens quelque chose de prodigieux dans toutes les pièces de théâtre que tu as écrites. Il dit, dès qu'on affirme une identité unique, on ouvre la voie à l'exclusion. N'est-ce pas ce qu'on vit maintenant?
Mm-hmm.
Hein, repensons-y, dès qu'on affirme une identité unique, on ouvre la voie à l'exclusion, et lui, il rajoute même, et au meurtre. Et voilà, c'est comment réussir à rétablir l'harmonie en étant moins vaniteux, en étant moins arrogant et en acceptant que nous sommes un.
Vous voulez pas être présidente de la République?
Ah, j'aimerais.
On en cherche en France. Wajdi Mouawad, peut-être un conseil pour les auditeurs de France Inter.
Alors, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui m'aide. C'est un livre de Georges Didier Huberman.
Le philosophe, oui.
Le historien de l'art. C'est un livre, c'est un de ses derniers livres qui s'appelle « Les anges de l'histoire ». Il explore la figure de l'ange en partant d'abord de l'iconographie chrétienne. Et Georges Lieberman crée ici un lien entre le haut et le bas à travers une image absolument incroyablement puissante qui est la bombe atomique de Hiroshima. Et il dit, voilà, cette photo, l'image qu'on a du champignon atomique est toujours une image vue de haut, puisqu'elle est faite par ceux qui l'ont lancée. Mais ceux qui étaient en bas, eux, ils n'ont pas vu une fumée. Ceux qui étaient en bas, eux, ils ont vu un éclair. Il fait cette dialectique entre l'éclair et la fumée. Et puis, il développe un peu cette idée de l'ange pour arriver finalement à une peinture de Paul Klee que Walter Benjamin va traîner avec lui. Walter Benjamin a acheté ce petit tableau qui s'appelle Angelos Novos, c'est-à-dire l'ange nouveau, qui est un ange, quand on regarde ce tableau de Paul Klee, c'est un ange aux ailes déployées, mais quand on le regarde, on a l'impression que c'est dessiné par un enfant. Et cet ange dessiné par un enfant s'avère être, au fond, la réponse à cette armada d'anges qui descendent. Ça devient ce que Georges D. Huberman appelle un être-ange, donc un étrange. De cette image-là, il déploie au fond une position qui est peut-être la position que l'on peut tenir pour ne pas succomber à la stupeur, pour ne pas être écrasé par la stupeur. Je tiens absolument à dire que je résume très mal. Il faut le lire parce que c'est une pensée profonde, c'est une pensée qui s'articule d'une manière extrêmement rigoureuse, mais très généreuse.
Oui,
il faut le lire lentement.
Il est lisible.
Il est lisible.
Hein, et beaucoup de jeunes le lisent, d'ailleurs,
oui,
aujourd'hui.
Et en plus, on peut l'écouter parce que sur des chaînes où il donne des cours à partir de ce livre, et on sent chez lui une telle générosité, une telle amitié dans la manière de transmettre sa pensée, qu'il y a là quelque chose que je trouve très important, qui est justement comment ne pas succomber au désespoir dans lequel on peut rapidement succomber dès qu'on a le sentiment qu'en fait tout est perdu, les méchants gagnent, tout est égaré. C'est un livre qui permet de se restructurer par rapport à l'obscurité dans laquelle on est.
Vous avez besoin de vous restructurer en ce moment, hein,
Weldy
Mouamouad, vous nous le disiez au début de cette émission. Moi, je voudrais donner un conseil aux auditeurs, c'est de lire la poésie de Vénus Kourigata.
Absolument.
Poétesse et romancière libanaise qui vient de mourir. Je vois que vous prenez votre stylo, Vénus Kourigata. C'est une poétesse que vous appréciez
beaucoup. Et c'était une dame que j'aimais énormément.
Elle avait un physique de tragédienne.
Oh là là là,
hein. Une chevelure rousse.
Ouais. Et qui passait son temps. Ouais, et qui passait son temps à vouloir faire en sorte que les gens se rencontrent. J'ai été mangé plusieurs fois chez elle parce qu'elle voulait que je rencontre un tel et un tel.
Oui.
Et elle faisait des repas pour que les gens se rencontrent.
Alors ça fait un peu salon mondain, mais c'était pas ça du tout.
Mais c'était pas ça.
Elle faisait des médiations.
Tout à fait. Hein? Elle faisait des médiations.
Et elle
faisait
écrit...
comme vous. Exactement.
Ah ben voilà, elle aurait pu prendre le micro. Elle a écrit entre autres « Écrire tant que le jour est jour, ne s'arrêter qu'à la tombée de la nuit et de tes paupières. Écrire tant qu'il y aura une goutte de sang dans tes doigts, jusqu'à l'ultime ligne de ta vie et du jour, quand le ciel s'affale sur le bitume et que tu te jettes sur ton lit avec le bruit d'une pierre lancée dans un puits. » C'est beau ?
C'est magnifique.
C'est ce qu'on lit dans « Ce qui reste des hommes » de Vénus Kourigata chez Acte Sud. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus converser, dialoguer, prouver que tout n'est pas fichu et que la parole, le langage sont essentiels.
Et il y a de l'espoir.
Madame la juge, je vous remercie. Louise Otis, je rappelle que vous êtes présidente du tribunal administratif de l'OCDE et de celui de l'OTAN. Vous repartez à Montréal peut-être aujourd'hui ?
Demain.
Faire votre footing par moins 30, il paraît ?
Non, je vous promets. Je vais attendre qu'il fasse moins 15.
Vous avez raison.
Ça, voilà qui nous rassure.
Tout ce qu'on vous dit est vrai. Merci, Weldy Mouamouad. Et
merci
bonne suite à ce que vous appelez Willy, hein, votre pièce de jeunesse. Le titre exact.
Willy Protagoras enfermé dans les toilettes.
Ça se poursuit au Théâtre de la Colline à Paris. Stéphane Combe a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbeault et Anaïs Boucher, programmation musicale de Valentine Chedebois. Il y avait à la technique Florian Dorimini.